Et à présent, Hype Santé sur Hype FM, présenté par Richard Zarzavadjian.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous santé. On est en plein dedans. Oui, on est en plein dedans puisqu'on estime qu'environ 30% des personnes sont allergiques en France et tous les âges sont concernés. Ce matin, nous allons essayer de donner des conseils pour se prémunir des allergies. Certes au pollen, c'est pour ça qu'on est en plein dedans, mais aussi à d'autres allergies plus rares, par exemple les médicaments ou l'alimentation. Vous verrez, il y a des aliments qui sont à proscrire chez certaines personnes. Pour en parler avec nous, une spécialiste, on est avec le docteur Alice Seringulian. Bonjour.
Bonjour.
Donc, on va commencer par le commencement, si j'ose dire. Alors d'abord, concrètement, comment se passe une allergie dans l'organisme? Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe dans l'organisme? En fait, une allergie, en gros, c'est de ne plus supporter ou de réagir fortement à quelque chose qu'on est censé supporter. C'est-à-dire notre environnement habituel, les pollens, les acariens, ce qu'on mange, ce qu'on respire. Et il y a une sorte de dérèglement immunitaire dans le corps qui fait que au lieu de supporter ces éléments de la vie normale, on commence à surréagir et ça provoque des manifestations au niveau de plusieurs organes. C'est pour ça que l'allergologie n'est pas une spécialité d'organes, mais c'est une spécialité d'immunitaire, qui concerne l'immunologie et le corps entier. Donc ça peut se manifester soit par des rhinites, par de l'urticaire sur la peau, de l'eczéma, de l'asthme, ou des réactions beaucoup plus graves qu'on appelle les réactions anaphylactiques.
Alors concrètement, il y a une réalité de terrain, si j'ose dire, il y en a de plus en plus.
Oui.
Pourquoi?
Pourquoi il y en a de plus en plus? Là, on arrive bientôt à 30% de la population adulte. On prévoit à l'horizon 2050 50% de la population, ce qui est un gros problème de santé publique. Donc pourquoi? Bah parce que l'évolution de l'environnement a été très très rapide, les changements d'environnement ont été très rapides depuis les 10-20 dernières années et les organismes n'ont pas pu s'adapter.
Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire beaucoup plus de floraison, beaucoup plus d'aliments différents venant de différents pays et notre organisme ne s'est pas adapté. Est-ce qu'il y a aussi le tout hygiène?
En partie, oui. Il y a cette théorie hygiéniste qui fait que on a supprimé beaucoup d'infections, on vit dans des environnements plus aseptisés, mais surtout, il faut parler des changements environnementaux. On a depuis plusieurs années, la pollution qui augmente, elle a changé cette pollution. C'est plus la pollution du 20e siècle, c'est une autre pollution qui augmente et qui est très irritante pour les voies aériennes, qui modifie aussi entraîne des modifications épigénétiques qui font que on supporte plus cet environnement. Il y a tous les ajouts au niveau de l'agriculture pour augmenter les rendements, les pesticides, tous les intrants qu'on utilise, et tout ce qui découle aussi de ces changements environnementaux, c'est-à-dire les changements climatiques qui modifient les saisons de pollinisation.
Alors, on est actuellement en juin, hein, en juin, on est en plein dedans là-dessus, c'est clair. Quels sont un peu est-ce qu'on a atteint le pic, le fameux pic, ou est-ce que on est quand même en ascension? Je parle de Paris, de l'Île-de-France, mais aussi l'ensemble du territoire.
Tout va dépendre des conditions météo qui vont suivre, mais on a atteint et un peu dépassé le pic pour les pollens d'arbres, qui est beaucoup plus précoce, et on va bientôt atteindre le pic pour les graminées.
Les graminées comme les cyprès?
Les graminées, c'est les herbes.
Les herbes.
Les mauvaises herbes qui poussent un peu partout dans les jardins, dans les terrains vagues, etc.
Donc ça veut dire que on en a encore pour combien de temps? On est en juin là actuellement.
Avant j'aurais dit jusqu'à juillet. Maintenant, on ne sait plus trop parce que avec justement ce changement climatique dont je parlais, on arrive à continuer en juillet, un peu en août et un regain en septembre depuis quelques années. Et puis, dans certaines régions, un peu dans le sud de l'Île-de-France, parce que là, on est à Paris, mais dans le sud de l'Île-de-France, on commence à avoir un peu d'ambroisie qui arrive. Donc,
fameuse ambroisie américaine,
voilà.
que les ancêtres de Donald Trump nous ont offert.
Voilà, ils nous ont offert ça après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Elle était originairement limitée à la région lyonnaise, puis elle s'est tendue le long de la vallée du Rhône, et là, elle remonte vers le nord.
Alors, concrètement, qu'est-ce que vous dites aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent ? Est-ce qu'il est jamais trop tard pour se traiter ?
Alors, il n'est jamais trop tard, on n'est jamais trop vieux pour se soigner, pour se soigner. Alors, les traitements pour la saison des allergies. Alors, évidemment, on va pas commencer une désensibilisation en plein milieu de la saison. C'est un peu trop compliqué. Donc, ce qu'on fait, c'est donner des médicaments. Mais ces médicaments, il faut pas les prendre au coup par coup.
Là, on parle des allergies au pollen.
Oui, je parle des allergies au pollen. Hein.
D'accord.
Il faut pas les prendre au coup par coup en disant bah j'en prends un et puis je vois ce qui se passe et puis non parce que en fait il faut stopper la course de l'allergie. On doit essayer d'empêcher l'histamine qui est libérée par les cellules qui sont responsables de l'allergie d'agir et de provoquer ensuite ce qu'on appelle une cascade inflammatoire qui va faire que les symptômes vont résister au traitement.
Donc ça veut dire que vous conseillez un traitement que tout le monde connaît, on va pas citer la marque, mais on le connaît bien.
Voilà, c'est pas un seul, hein. Il y a plusieurs antihistaminiques qui se valent tous. Des traitements locaux au niveau du nez et des traitements locaux au niveau des yeux.
Quand vous dites traitements locaux, c'est du sérum FI, des choses comme ça.
Lavage au sérum FI, mais aussi des sprays qui contiennent des antihistaminiques locaux et éventuellement un petit peu de corticoïdes locaux. Au niveau des yeux, on a des antihistaminiques en gouttes et aussi du chromoglycate qui est très efficace sur les allergies oculaires.
Et est-ce qu'on peut dire aux gens qui nous écoutent, à partir du moment où on prend un de ces trois traitements, c'est efficace vraiment de façon fortement intéressante pour le patient ?
Quelquefois, un seul ne suffit pas. Il faut combiner toutes les solutions et éventuellement rajouter un deuxième antihistaminique, même si les pharmaciens vous disent ça suffit, quelquefois il en faut deux.
Alors vous parlez du pharmacien parce que c'est effectivement on pourrait aller voir l'allergologue mais il n'y en a pas assez d'allergologues, c'est bien connu. Donc vous conseillez d'aller voir pour ce type de prévention et de traitement le pharmacien d'officine.
Entre autres, si c'est une allergie qui va pas durer très longtemps, mais sinon voir plutôt son médecin traitant pour prescrire des traitements qui sont remboursés, parce que les traitements conseillés par les pharmaciens d'officine ne sont pas remboursés, ils sont vendus en prix libre, donc ça revient un petit peu cher quand ça dure plusieurs semaines ou plusieurs mois.
Bien sûr. La mécanique, docteur, de cette émission, c'est de vous poser des questions aussi par le biais des auditeurs. On écoute tout de suite l'un d'entre eux.
La pollution augmente-t-elle le risque d'allergie ou bien souffre-t-on de la même manière en ville qu'à la campagne ?
Alors,
bonne question ça. Hein.
C'est une très bonne question. C'est clair que la pollution augmente le risque d'allergie en entraînant des inflammations et des irritations au niveau des voies aériennes. Alors, entre la ville et la campagne, moi je ne sais pas si vous connaissez maintenant la campagne, mais entre les voitures diesel qui sont prédominantes là-bas, entre les épandages au niveau des champs, bon, il y a des coins où on a moins de pollution, mais on souffre de pollution à peu près partout.
Non, cette question elle est le résultat d'une étude, d'une fameuse étude sur les campagnes allemandes, les fermes allemandes où on s'apercevait que les enfants étaient moins allergiques que leurs homologues en ville.
Là, c'est pour une autre raison. C'est pour revenir on revient à la question hygiéniste où dans les années 80, je crois, en 80-90, on a prouvé que les enfants des campagnes étaient moins allergiques parce qu'ils étaient dès leur plus jeune âge en contact avec le lait cru, avec les animaux de la ferme, donc ils vivaient dans une atmosphère moins aseptisée. Donc, leur système immunitaire était plus orienté vers la défense contre les infections que contre se défendre contre des allergènes hypothétiques.
Alors que maintenant, les choses ont beaucoup évolué, comme vous le disiez, hein, à la campagne, on retrouve des allergènes omniprésents et presque qu'on n'a pas en ville. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive à égalité, si j'ose dire, ou pas ?
Pas tout à fait encore, mais presque.
Dans les 50%, ça veut dire qu'il va y avoir des recrudescences, des allergènes ou des allergies dans les milieux ruraux ?
Oui. Oui.
Donc ça, c'est ça le résultat. J'ai cru voir une étude qui est sortie sur, alors je sais pas si c'est Air Paris ou sur l'Île-de-France, on s'aperçoit que les Parisiens respirent mieux. Est-ce que vous pensez que toutes les mesures qui ont été prises concernant la limitation de la vitesse sur route peuvent participer à une diminution et de la pollution et donc des allergies?
Oui, même si quand on circule en voiture à Paris, on n'a pas l'impression que c'est mieux. Il y a eu une étude faite par l'équipe de Trousseau qui a démontré que les enfants asthmatiques étaient mieux depuis qu'on a limité la circulation dans certains endroits.
Il y a eu aussi une étude, mais qui remonte à plus de 20 ans, où, vous savez, la tempête de décembre, où beaucoup d'arbres sont tombés entre Boulogne et Vincennes, et les urgences ont remarqué qu'il y avait beaucoup moins de crises d'allergie ou de crises d'asthme.
Oui. Le tort qu'on a eu ces dernières dizaines d'années, c'est de faire des plantations de monoculture avec des arbres qui étaient plus ou moins adaptés au climat, mais qu'on trouve en grande quantité dans des zones très limitées, ce qui fait des grosses libérations de pollen. On a un nombre incalculable de bouleaux qui ont été plantés. C'était pas vraiment un arbre autochtone, et là, l'allergie au bouleau est quand même l'allergie prédominante en début de saison.
Alors, on a dû vous la faire plusieurs fois, on est bien d'accord, c'est l'allergie à l'arbre et non pas au travail.
Ouais, tout à fait. Moi, j'en sais pas trop, mais je crois. Oui, je crois.
Docteur, on continue par une autre question?
Oui.
En cas d'allergie alimentaire, faut-il renouveler régulièrement les désensibilisations à certains aliments?
Déjà, bonne question, mais aussi, quels sont les aliments qu'on retrouve très souvent à l'origine d'allergies et d'œdèmes de couilles?
Au début de la vie, c'est évidemment le lait, parce qu'on commence par utiliser le lait. L'allergie au lait est une allergie qui, dans la grande majorité des cas, passe vers un an et demi, ou à peu près un an et demi. Il reste quelques cas graves qu'on peut éventuellement... Alors, je mettrai les guillemets désensibiliser. On n'appelle pas ça une désensibilisation, mais une adduction de tolérance orale. Et on fait ingérer des quantités de lait progressivement croissantes jusqu'à une dose normale pour un enfant ou un adulte. Et ces doses doivent être entretenues, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'arrêter de prendre du lait pendant plusieurs mois et reprendre. Il faut vraiment continuer à avoir une consommation régulière, pas forcément quotidienne, mais régulière. Ensuite, après, toujours chez les enfants, on a les fruits à coque, dont la grande majorité était l'arachide. Donc maintenant, j'ai l'impression que la noisette est en train de rattraper, et les fruits, d'autres fruits comme la noix de cajou. Les désensibilisations sont... Bon, toujours, les inductions de tolérance alimentaire se font... c'est un peu compliqué parce que c'est des sensibilisations qui font réagir, qui sont pas toujours bien supportées, et on a une grande partie des enfants qui arrêtent ou des jeunes adultes qui arrêtent ces traitements. Bon, évidemment, ils retombent au niveau où ils étaient avant de commencer.
Qu'on soit bien d'accord, l'idée, c'est d'introduire dans l'organisme de tel ou tel patient une quantité graduelle en montant, si j'ose dire, de produits allergènes. Et dès qu'il y a une réaction trop forte, on dit là, c'est le seuil à ne pas dépasser.
C'est-à-dire qu'au départ, ça, on détermine quel est le seuil de cette manière-là. Non, une journée d'hospitalisation, et ensuite on donne un traitement, c'est même pas un traitement, l'aliment à des doses inférieures à ce seuil, et on monte progressivement et on essaye d'augmenter ce seuil, de faire monter ce seuil pour qu'il y ait plus d'accidents. Et quelquefois il y a des personnes qui ont presque plus d'allergie, mais ouais, à condition de continuer la consommation régulière.
Bon, voilà. Mais continuer la désensibilisation tous les ans, il faut tous les deux ans?
Non, c'est tout le temps. C'est-à-dire quand on, par exemple, je parle du de l'arachide, il faut, quand on est arrivé à un seuil de quelques cacahuètes par jour, il faut continuer à manger de la cacahuète plusieurs fois par semaine pour entretenir cette
Donc,
tolérance.
On fait la désensibilisation et après on prend un peu des cacahuètes. Il n'y a pas d'éviction totale de la cacahuète?
On essaie de moins en moins de faire ça, mais quelquefois on est obligé. Tout dépend des individus.
On est en plein été, il y a les abeilles, il y a les guêpes, il y a les vipères. Quel est le message? Parce que ça fait peur, hein. Ça fait peur de se faire piquer et d'avoir un œdème massif. Qu'est-ce qu'on donne comme conseil?
Bon, écoutez, les vipères, je sais pas trop, c'est le domaine des toxicologues. Mais par contre, les guêpes et les abeilles, il existe des désensibilisations qui, elles, sont très efficaces. Qui ont, à partir du moment où on a fini le traitement, qui dure de 3 à 5 ans, il y a une rémanence pendant très très longtemps, et vraiment c'est la désensibilisation pour laquelle on a des résultats les plus probants.
Donc c'est encourageant, c'est presque de la vaccination.
C'est pas le même principe.
Mais en tout cas, c'est le principe d'introduire l'allergène pour qu'il y ait une réaction de l'organisme et une défense.
C'est pour modifier cette défense anormale de l'organisme et la rendre normale.
Alors justement, la question que tout le monde se pose, c'est pendant les vacances, est-ce que les gens qui sont allergiques, et qui le savent, parce qu'il y a sûrement beaucoup de personnes qui sont allergiques à telle ou telle chose, mais qui l'ignorent. Les gens qui le savent, est-ce que vous leur conseillez de partir dans leur trousse santé, si j'ose dire, d'avoir un produit d'urgence? Parce que si ça se passe en pleine campagne ou alors dans des endroits reculés, c'est pas facile.
Oui, tout à fait. Les allergiques aux piqûres de guêpes et d'abeilles qui sont exposés à faire d'éventuels chocs anaphylactiques qui peuvent être mortels, doivent avoir toujours avec eux, dès la belle saison et pas seulement à la campagne ou en vacances, des stylos injecteurs d'adrénaline.
Et donc ça, c'est prescrit par le médecin, on peut pas l'acheter en OTC, à la pharmacie?
Non, on peut pas.
D'accord. Et ça, c'est vraiment utile. Est-ce que vous, tout à l'heure, vous nous mettiez le moral dans les chaussettes en nous disant que 50% des quelques années, il y aura des personnes allergiques. Est-ce qu'on peut envisager que dans la trousse famille, il y ait, pour toutes les familles, ou en tout cas pour les familles dites à risque, eh ben, cette seringue d'adrénaline?
Bon, alors 50% de la population va pas être à risque de choc anaphylactique, enfin j'espère. Et en fait, c'est surtout les gens qui ont des allergies au venin de guêpes ou d'abeilles ou les allergiques alimentaires qui doivent avoir de l'adrénaline avec eux. Voilà.
Voilà, donc.
Mais sinon, pour tout le monde, moi, je conseille de partir avec des antihistaminiques.
Oui.
Parce que quelquefois, même une forte réaction à une piqûre de moustique, bon, on est soulagé avec un antihistaminique parce que ça gratte moins.
Ça gratte moins. Dans l'antihistaminique, vous le conseillez de le prendre le matin, par exemple, sous la langue. Et comment ça se passe
Il y a plusieurs formes. Il y a une forme
la plus simple.
Il y a une forme qu'on peut prendre sous la langue. Moi, ce qu'on trouve, c'est qu'elle agit plus rapidement que les autres, juste parce que c'est une autre voie d'absorption. Mais sinon, on peut prendre les antihistaminiques à n'importe quelle heure. Il n'y a pas d'heure. Bon, évidemment, il y a certaines personnes qui ressentent une somnolence, donc ils préfèrent le prendre le soir. Mais sinon, il n'y a pas d'heure spécifique.
Il n'y a pas d'heure précise pour le prendre. Une autre question?
Oui.
Lorsqu'on est allergique au pollen, existe-t-il un risque accru de développer d'autres allergies, par exemple à certains médicaments? Pour prendre mon exemple, moi qui suis allergique à pas mal de choses comme les pollens, la poussière, même certains composants qu'on peut retrouver dans les gels douches, même la lessive, est-ce que je vais être, et les personnes dans mon cas, allons être plus exposés à d'autres formes d'allergies? Et les allergies peuvent nous irriter plus longtemps et de manière plus conséquente, ou bien il n'y a pas de lien de cause à effet?
Là, je trouve qu'il y a plusieurs questions. La question, est-ce que un terrain allergique expose à une allergie médicamenteuse? Pour l'instant, ça n'a pas été prouvé et on n'a pas vraiment l'impression. Ensuite, sur les allergies qui durent plus longtemps, forcément pour les allergies au pollen, ça dure plus longtemps parce que les pollens ils sont là plus souvent. Après, j'ai plus trop noté, je sais pas si.
Non, mais en tout cas, oui. Ce qu'il dit, c'est les allergies groupées.
Oui.
Allergies groupées, c'est voilà. Une réalité.
Donc les gens qui sont exposés aux allergies respiratoires ont des risques de développer des allergies alimentaires. Et ça, je le vois vraiment depuis une quinzaine d'années. Hein. Avant, on le voyait pas tellement. Les allergiques au pollen développent des allergies aux fruits, à certains légumes. Les allergiques aux acariens développent des allergies à la crevette ou à l'escargot. Bon, ça, c'est
C'est fréquent.
C'est de plus en plus fréquent.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ont une allergie au pollen et qui développent une autre allergie, c'est tout l'organisme qui est mis en branle. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces allergies? Est-ce qu'on a des précisions là-dessus?
On s'est aperçu que, en fait, c'est un peu normal, hein, c'est des études que les biologistes connaissaient bien. En fait, les pollens et les fruits, ils poussent sur des arbres, hein, et puis à partir de fleurs. Donc, le pollen, il est contenu dans la fleur et après, dans le fruit, on retrouve des protéines qui ressemblent beaucoup à ces pollens. Donc ça, quand on y pense, ça paraît vraiment évident.
Bien sûr, non, mais c'est très clair de l'expliquer comme ça parce que les gens comprennent pas le lien entre un cyprès, un arbre, et un kiwi.
Oui, enfin, cyprès kiwi, c'est rare, mais cyprès pêche, c'est très fréquent.
C'est très fréquent parce ouais. qu'on a les mêmes, il y a de la floraison un peu partout.
Oui, parce que les pollens de cyprès sont proches de certaines protéines de la pêche.
Alors, notre ami qui vous pose la question nous dit aussi qu'il y a des allergies aux médicaments. Là, c'est un truc qui est important. On parle de plus de 5% de personnes de Français qui sont allergiques à des médicaments. D'abord, à quelle classe thérapeutique de médicaments et quelle est la solution lorsqu'on est obligé de prendre un médicament?
Donc, moi qui travaille dans un service où on s'occupe presque exclusivement d'allergies médicamenteuses, on s'aperçoit que dans tous les gens qui pensent être allergiques aux médicaments, il y en a contre, disons, 13 et 17% qui le sont. Beaucoup ont soit des effets secondaires, soit ont eu des effets, par exemple, lors d'une infection virale, ils ont pris un antibiotique, ils ont eu une éruption cutanée, mais cette éruption cutanée était plutôt due au virus et pas aux médicaments. Donc, l'essentiel, c'est de prouver l'existence de cette allergie médicamenteuse. Et dans les cas où on a prouvé l'allergie aux médicaments, on essaye de trouver des alternatives avec d'autres médicaments qui sont bien supportés. Mais par contre, on n'a pas de traitement d'induction de tolérance pour les médicaments. On en fait juste pour les chimiothérapies qui ne peuvent pas être remplacées.
D'accord, mais on sait que les antibiotiques, il y a beaucoup de gens qui peuvent être parmi la population allergique aux médicaments. Les antibiotiques sont en première ligne. Qu'est-ce qu'on propose aux patients qui ont besoin de prendre des antibiotiques? Il y a des endroits où on peut pas faire autrement.
Voilà, mais écoutez, s'il y a possibilité d'avoir un allergologue qui fait la part des choses et qui prouve qu'il y a une allergie ou pas d'allergie, déjà on essaie d'éliminer l'allergie. Et s'il y a une allergie, il y a beaucoup d'antibiotiques qui peuvent remplacer. Hein. Donc, on arrive à trouver des solutions en général.
Et les réactions aux allergies médicamenteuses versus les allergies alimentaires, c'est les mêmes réactions très fortes parfois? Il peut y avoir un œdème avec pronostic vital?
Oui, il peut. C'est souvent un peu plus lent de constitution que dans les allergies alimentaires où c'est vraiment quelquefois très très rapide, mais ça peut. Moi j'en vois assez souvent, hein, des gens qui font des anaphylaxies. C'est pas seulement l'œdème, hein, c'est vraiment la baisse de tension, la perte de connaissance qui peut aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. On a des choses comme ça.
Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on est face à quelqu'un qui est allergique aux antibiotiques mais qui n'est pas chez le cabinet de consultation de l'allergologue?
On le traite. C'est un traitement des symptômes.
Et y a-t-il d'autres médicaments qui sont à risque? Est-ce que, par exemple, les insulines pour les diabétiques? Vous parliez tout à l'heure de chimiothérapie. Ça aussi, ça peut se présenter?
Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a des médicaments...
On va pas faire peur aux gens qui nous écoutent, mais c'est 5% de la population, ça reste...
C'est pas beaucoup. Les insulines, c'est rarissime. Et c'est rarement des choses violentes, c'est plutôt des problèmes cutanés à long terme. C'est rare. Le plus fréquent, c'est les antibiotiques, les anesthésiques généraux. C'est pas fréquent dans les chimiothérapies anticancéreuses d'avoir des allergies. C'est très rare. Mais ça arrive. Mais ça, on arrive toujours à trouver des solutions.
On parlait tout à l'heure de l'hôpital. Rappelez-vous qu'on a institué la consultation pré-anesthésique. Il y avait aussi, parce qu'il y avait un risque d'allergie aux curares ou aux produits anesthésiants?
Au départ, je pense pas que c'était, non, c'était pas pour ça, c'était pour connaître le terrain de...
Bah, il y a eu le cas Chevènement, juge de la République, qui a fait une réaction massive. Et c'est suite à ça qu'on a instauré les consultations pré-anesthésiques.
Oui, mais c'est pas seulement ça. Les anesthésistes font tout un bilan, et puis, ils voient s'il y a intubation facile, intubation difficile, ils regardent les médicaments pris, les médicaments arrêtés avant les anesthésies, il y a tout un tas de choses, et le terrain allergique aussi, oui.
Est-ce qu'il y a des patients pour lesquels on a une attention particulière compte tenu de leur pathologie? Alors on a parlé du cancer, mais est-ce qu'il y a des personnes, par exemple au niveau asthme, des gens qui souffrent d'asthme sont plus à risque de faire des allergies que des gens qui n'ont pas d'asthme?
Déjà, chez une grande majorité d'asthmatiques, l'asthme est d'origine allergique. Les asthmatiques sont toujours susceptibles de faire des crises graves. Et par exemple, on a eu il y a quelques années, c'était en Australie, un afflux d'asthmatiques à l'hôpital un jour d'orage parce qu'il y avait eu un tel déferlement de pollen juste avant l'orage que les asthmatiques allergiques au pollen ne pouvaient plus respirer, se sont tous retrouvés à l'hôpital. Et ça arrive ici en France justement par jour d'orage à cause des pollens, mais aussi à cause de certaines moisissures atmosphériques qu'on appelle l'alternaria.
Donc ça veut dire, ça c'est un point supplémentaire, c'est que lorsqu'il y a une météo qui n'est pas favorable, allergique, restez chez vous.
Surtout asthmatique, oui.
Allez,
et puis allergique, allez pas faire un shooting en plein après-midi, un footing en plein après-midi pendant les pollens. Hein.
Oui, il y a vraiment des choses à ne pas faire, oui. Parce que vous avez le sentiment, au-delà de tout ce que vous nous avez dit et qui est important parce que c'est très pratique, est-ce que vous avez le sentiment que on est négligent? Au niveau je parle du patient, du risque allergique, des précautions à prendre. On parle beaucoup des parfums, on parle beaucoup de certains produits qui pourraient provoquer la peinture. Il y a des métiers à risque. Est-ce que là, il faudrait que les autorités se réveillent un peu et fassent quelque chose? Vous parliez tout à l'heure des arbres. Eh ben, il y a peut-être eu quelque chose qui n'a pas été respecté. Est-ce que vous avez le sentiment que la société, elle n'est pas encore au taquet, si j'ose dire?
Oui, pas encore. Ça commence, mais pas encore, oui. Tous les systèmes de ventilation pour les gens qui travaillent, même dans une boulangerie, hein. C'est-à-dire que c'est pas toujours respecté. Enfin, moi, je m'occupe pas d'allergies professionnelles, mais on voit qu'il y a plein d'adaptations au poste de travail qui sont pas respectées.
Bon, on arrive au terme de cette émission. Redonnez-nous le moral avant de clôturer l'émission. On est à la mi-juin. Alors, votre sentiment pour l'été?
Soit il pleut et les allergiques vont bien, soit il fait beau et les allergiques vont moins bien.
Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais quoi qu'il en soit, si on est allergique et qu'on le sait, vous l'avez bien dit, il faut pas prendre le traitement comme un médicament, il faut le prendre en continu, et même si on va bien.
Pendant la saison, s'il vaut mieux, et puis surtout, il y a des petites choses à faire, hein. Par exemple, savoir que les pollens se collent aux cheveux, aux vêtements. Donc, quand on rentre à la maison, on se rince les cheveux, ou on s'abrite les cheveux quand on est dehors et on change de vêtements. On fait pas sécher ses vêtements dehors pendant la saison des pollens.
À Paris, dans les villes comme à la campagne.
Exactement.
Parce que c'est agréable de mettre ses draps au soleil à la campagne.
Bah oui, mais c'est pas terrible après le soir.
D'accord.
Voilà.
Et on aère combien de temps les appartements?
Faut les aérer pendant la saison des pollens le matin avant 10h. Ou le soir, une fois que la nuit est tombée.
Docteur Seringuillan, merci beaucoup de toutes vos explications, parce que c'est vraiment un sujet de santé publique. Et puis, eh bien, à très bientôt et passez un bel été.
Merci.
Bonne journée et bon week-end à vous toutes et à vous tous.
Vous écoutez la radio arménienne Hype FM sur le 99.5.
Mayres. Իման չարու խոնար մայր. Զավարիս կուտերն աչքիդ առաջ նստած էիր. Երբ մտա խոհանոց, ներսումս կռիվ կար. Ես դառնացած էի ու չպատասխանեցի քեզ, երբ հարցրիր, սուրճ ուզում եմ, դու լռեցիր. Երանի չլռեիր, մայրս, ճերմակներ կան մազերիդ մեջ, գունատվում են մազեր. Ես ամեն գունատվող տերևի մասին մի տող ունեմ գրած, քո մասին ոչ մի տող, ու ես մտքից սարսափելի ցավեց սիրտս. Ինձ համար ճերմակող քո մազերի համար երգեր չունեմ գրած, ման, ով ժպտաց երեսիս, ով ասաց սիրում է, ով գրկեց, նրա մասին գրեցի, նրան երգեցի. Քեզ չեմ երգել, խոնարհս, ու չգիտեմ կերքեմ թե չէ, չէ որ երգում եմ կորցրածիս ու չունեցածիս մասին, իսկ քեզ միշտ եմ ունենալու, անսպառս. Ձյուն է իջնում, կուտակվում, մորս վրա վերևից, ասես փետուր է թափվում հրեշտակի թևերից, գերեզմանի այս հեռվում մեղմ դիսվում է թախծալից, մորս վրա մարմարվում շիրմակար է թվում ինձ. Այնպես մեղմիկ է դնում աստված պատիլ պատիլին, որ չցավի ողջ կյանքում մորս ցաված սիրտը հի. Պատիլվում է մեղմածյում, մարմարվում է մեղմաբար, աստված ինքն է ստեղծում մորս վրա շիրմակար.
Շո սուրբ կարավետ վանք բահավան մզի, Էլիարո դուր գուզեր էր դանք սարսնցին, Մշո սուրբ կարավետ վանք բահավան մզի.
Media School, la formation dure tout au long de la vie. Nous proposons 3 cursus adaptés aux emplois du temps des cadres et cadres dirigeants en marketing et communication.
C'est revenir sur les basiques du marketing et de la communication, mais dans l'environnement digital.
Je retiens de ce programme un apprentissage hyper diversifié qui m'a permis de visualiser les projets data au niveau économique et stratégique.
J'ai vraiment développé la méthodologie de travail autour de cette transformation et de cette mutation des entreprises.
Si vous aussi vous souhaitez développer vos compétences et ajouter de nouveaux atouts à votre CV, rendez-vous sur mediaschool.eu.
Iraki, Hunisit Asna Hingin, Jamat Asna Yotin, Alforvili Pol Culturel Hamergaserahum, Fransa Hayeri Miutuna Hachuikov, Raviru Mezes Masnak Selu Pararvesti Batsarik Metz Hamergi, Voregazma Kerfume Yerkuna Shanabor, Pari Varpetneri, Aram Arzumanyani Hisun Amyaki, Yev Armen Chiloyani Hisun Hink Amyaki Patvin. Այս բացառիկ երեկոյին իրենց տաղանդով եւ ուրույն ձեռագրով հանդես կգան հայտնի պարախմբերը՝ Արարատ, Նավասարդ, Աստղիկ եւ MCA, միավորելով արվեստը, մշակույթը եւ նվիրվածությունը, ձեզ համար ստեղծելով անմոռանալի զգացումներ եւ հույզեր։ Տոմսերի եւ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 06 95 14 77 67 հեռախոսահամարով կամ գրել union.fr@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին։ Dimanche 15 juin à 17h, l'Union franco-arménienne a le grand plaisir de vous inviter à un spectacle exceptionnel de danse organisé en l'honneur de deux grands maîtres de l'art chorégraphique, Aram Arzumanyan qui fête ses 50 ans et Armen Chiloyan qui fête ses 55 ans. Lors de cette soirée unique au pôle culturel d'Alfortville, les célèbres troupes de danse Ararat, Navasart, Astrik et MCA se produiront alliant art, culture et dévouement pour vous transmettre des émotions et des souvenirs inoubliables. Pour toute information et réservation, contactez-nous au 06 95 14 77 67 ou en écrivant à l'adresse union.fr@gmail.com. Venez vibrer avec nous dimanche 15 juin à 17h au pôle culturel d'Alfortville.
L'occasion du 70e anniversaire de la colonie de Bellefontaine, le week-end du 12 et 13 juillet 2025, la Croix-Bleue des Armins de France vous réserve une surprise exceptionnelle. Participez à la grande tombola anniversaire. Tentez votre chance et remportez un voyage d'une valeur de 2500 euros à destination de votre choix. Au soleil, à la montagne, à l'aventure, c'est vous qui décidez. Alors, prêt à embarquer pour le voyage de vos rêves? Les billets sont en vente dès maintenant auprès de nos sections. Tirage au sort le dimanche 13 juillet 2024 lors de la grande fête de la colonie. Ne manquez pas votre chance! La Croix Bleue des Armes de France, Joroutin Hen, Joroutin Hamal.
France Arménie numérise la mémoire arménienne. France Arménie a engagé sa transition au numérique et entreprend donc de numériser l'ensemble des numéros depuis sa création en avril 1982, afin de les mettre à la disposition du public, des historiens, des chercheurs et journalistes, gratuitement, via un site internet entièrement refait. L'objectif est que cette mémoire de la communauté continue à vivre. La numérisation de nos archives et la modernisation de notre site internet ne peut donc se construire sans vous. Nous avons besoin de votre aide et de votre soutien pour financer ce projet. Faites un don, petit ou grand, pour sauver notre mémoire et offrir des racines pour les générations futures. Nous comptons sur votre générosité et votre engagement aux côtés de France Arménie. Pour faire un don, vous pouvez envoyer vos chèques à France Arménie, 17 Place de la Ferrandière, 69003 Lyon, ou utiliser le compte Hello Asso France Arménie, ou directement sur le site internet francearménie.web-easy.com. Un CERFA vous sera envoyé pour chaque don. Vous avez été à nos côtés. Merci de l'être encore.
Hype FM à votre service. Pour accompagner la promotion de votre entreprise, de votre commerce ou les initiatives de votre association, Hype FM se tient à votre disposition. Diffusée sur Paris, Marseille et Nice, notre antenne vous permettra d'atteindre un large public auquel il convient d'ajouter les internautes qui nous suivent en direct partout en France, mais également à l'étranger via notre site internet. Prenez contact avec nos services qui vous réserveront le meilleur accueil et qui vous proposeront la formule la mieux adaptée à vos projets et à votre budget. Appelez le 01 43 53 19 90, 01 43 53 19 90, ou laissez-nous un message sur hyperadio@wanadoo.fr et nous ne manquerons pas de vous recontacter.
Durere Vilma Kuyumcan.
Parevsiri Lungantirner. İsrail'e Hartsagum Gadaradze İran'ı vıra. Aravodyan jamı yerekin İsrail'i otayın ujeri rımpagozadzen İran'ı miçigayin yergu garevor urani harıstatman getronları Kermanşahi yev Horamabadi hırtirayin gayanları. Հարցագում գադարված է նաև Թեհրանի, Սպահանի, Տավրիզի և Իրանի այլ խոշոր քաղաքներուն վրա։ Հարվածներ գադարված են փնագելի շենքերուն վրա, հարձվածներ հասցված են նաև Ղոմ քաղաքին վրա, ուր գտնագին Իսլամական Հանրապետության հոգևոր ղեկավարության բազմաթիվ ներկայացուցիչներ։ Հարվածներու հետևանքով զոհված է Իսլամական հեղափոխության Բահաբաններու կորպուսի գլխավոր հրամանատար Հուսեին Սալամին, ինչպես նաև այլ հրամանատարներ եւ միջուգային ոլորտի գիտնականներ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն հայտարարած է, որ Իրանի դեմ մեկնարկած է արտնացող արյուծ գործողությունը։ Ան ասաց է, թե այս գործողությունը ուղղված է Իրանական միջուգային ծրագրի դեմ։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Գացը իր գարկին այս գործողությունները անվանած է «գանխարկելիչ հարված»։ Անոնք իսրայելցիները նախազգուշացուցած են Թեհրանի կողմի հնարավոր պատասխան հարվածի մասին։ Գայտնովի որ Թել Ավիվի օտային տարածքը փակե բոլոր տեսակի թռիչքներու համար, Իսրայելի մեջ հայտարարված է արդագարգ թռություն։ Իսկ Իրանը խոստացած է գոշտ պատասխան տալ Իսրայելի հարվածներուն մեղադրելով Միացյալ Նահանգները Իսրայելին աջակցելու մեջ։ Իրանի քերակույն առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամանեին խոստացած է, որ անբադիժ պիտի չթողնեն այս հարցագումը։ Ան հաստատած է, որ հարվածներու հետևանքով զոհված են քանի մը հրամանատարներ եւ գիտնականներ։ Միացյալ Նահանգները ներգրավված չէ Իրանի դեմ Իսրայելի հարձակման մեջ, այս մասին հայտարարած է Միացյալ Նահանգներու պետկարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Իրանի դեմ Իսրայելի կողմի գադարված այս գործողությունները Ռուբիոն անվանած է միակողմանի, եւ ան Իրանը զգուշացուցած է, որ պետք չէ տիրախավորի ամերիկյան ուժերը ի պատասխան այդ հարվածներուն։ Իսրայելը Միացյալ Նահանգներուն ասաց, որ այս հարվածները անհրաժեշտ են իր ինքնապաշտպանության համար։ Մարկո Ռուբիոն ավելացուցած է, որ Միացյալ Նահանգները ներգրավված չեն Իրանի դեմ հարվածներու մեջ եւ իրենց քերագա խնդիրն է դարաձաշրջանի մեջ ամերիկյան ուժերու պաշտպանությունը։ Նախագահ Թրամփը եւ վարչագազմը ցերնարգած են բոլոր անհրաժեշտ քայլերու Միացյալ Նահանգներու ուժերը պաշտպանելու համար եւ սերտ գաբի մեջ են դարաձաշրջանային գործընկերներուն հետ։ Իրանը պետք չէ տիրախավորի Միացյալ Նահանգները, շահերը կամ անձնագազմը, հայտարարած է Մարկո Ռուբիոն։ Լևոն Բերբերոսյանը Նիկոլ Փաշինյանը անվանած է ասկատավ ու սրբաբիղձ։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Բերբերոսյանը հիշեցուցած է, որ 20-րդ դարու սկզբին Ռուսաստանի գայսր Նիկոլայ II-ը օրենք ընդունած էր հայոց եկեղեցի քույքի բռնակրավման եւ հայկական դրոշներու փակման մասին, ինչ որ ընդվզման ալիք առաջացուցած էր հայ ժողովրդի մեջ, ագամա թափ տալով հայկական ազգայնականության ձևավորումին, Aba gaysrə stivvaz yegav 1905 tvaganin çəğargel ait orankə. Եթե հայ ժողովուրդը հզոր Ռուսաստանի գայսրը հաղթարեց, Նիկոլի նման ասկատավն ու սրպաբիղծմը ինչ է որ չհաղթահարե հարց տված է Լևոն Դեր Պետրոսյանը։ Առաջին նախագահի այս կրարումին թեմ հագաստած են իշխանության ճակատին իշխանական պատգամավոր եւ ասկային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը կրաձեւոր, այսինքն Գատորիգոսի աստուծո առաջ տված ուխտը բախպանել ագնգալելը նույնն է, ինչ եգեղեցի քույկը բռնակրավելն ու հայկական թբրոսները փակելը, ինչպիսի իմաստուն վերլուծություն, նշած Ռուբեն Ռուբինյանը։ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյան իր գարկին քրարումի մեջ դիտել դված է, որ այսօր Լևոն Դեր Պետրոսյանը հասած է երեսպաշտության կակատնագետին։ Առաջին նախագահը իր այս հայտարարությամբ հավասարգության նշան գտնե վարչապետի ու հայ ինքնության թեմ հանցանք կործած ռուս գայսերի միջև, Լևոն Դեր Պետրոսյանը անվանելով նորանգախ Հայաստանի նաև կաթողիկոսական ընդրություններու գեղձման գնկայրը, աննշած է, թե այսպիսի հայտարարություններ կործած մարդը պետք է պարզապես լրի։ Հիշեցնենք, որ առաջին նախագահը նախորդ շաբաթ այցելած էր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին և առանձնազրույց ունեցած էր Կարեկին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ, անոր հայտնելով իր զորակցությունը և խստաբես դատավարդելով հայոց եկեղեցի նկատմամբ Հայաստանի իշխանություններու ոդնցկությունը։ Հիշեցնենք, Նիկոլ Փաշինյանը իր գուսագիսները և գողմնագիսները գասկածի դակ կտնեն Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսի հավատարմությունը գուսագրոնության ուխտին նկատմամբ։ Իսկ շարքմը եպիսկոպոսներ և ընդդիմադիրներ կբնդեն, որ եկեղեցի հարցերը կկննե միայն եկեղեցին։ Հնդկաստանի Ահմեդաբադ քաղաքի մեջ Air India օտանավի գործանման հետևանքով զոհված է ավելի քան 290 մարդ։ Ինքնաթիռը զարնված է բժշկական ուսումնարանի մը հանրագացարանին վրա, մերնողներու գարկին են նաև ուսանողներ, որոնք կպնագեին այդ շենքին մեջ։ Air India ընկերության օտանավը վերել կատարած էր Ահմեդաբադեն դեպի Լոնդոնի ուղությամբ, սակայն թեր անհայտ պատճառներով վարգյաններ անց ինքնաթիռը գործանված է։ Բոսո մեջ հանգարձամախ եղած է համայնքային կորձիչ Մելիքջան Զամանը։ Բոսայի շրջանակներ խորաբես ցնցված են համայնքային երիտասարդ կորձիչ Եշիլ Քյուրի հայկական վարժարանի դնորեն և Սայատնովա երգչախումբի ղեկավար Մելիքջան Զամանի ան ժամանակ մախով, ան 43 տարեկան էր։ Իր ձավալած բազմագողմանի կորձունեությամբ ան համադարած քնահանդանքի և համագրանքի արժանացած էր տասնամյակները ի վեր։ Մելիքջան Զամանի աստղը համայնքային կյանքին ներս պայլած էր որպես երաժիշտ, ան չուտագար էր։ Հաջորդող ժամանակաշրջանին ան նվիրված էր նաև գրթական ասպարեզին, ստանցնելով Եշիլ Քյուրի վարժարանի դնորենի բաշտոնը։ Մելիքջան Զաման որդին է Թակուի Թոմասյանին, որ դարիներ աշխատակցած է Արաս հրադարակճադան և հայտնի դարձած է իր Մերշեն Սեղանեն Քիրկով։ Սիրիլ ունգնտիրներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։
IPFM, c'est aussi 24 heures sur 24 sur la RNT.
Mais qu'est-ce que c'est ?
C'est la radio numérique terrestre.
C'est comme la TNT, mais pour la radio ?
Exactement, il suffit juste d'avoir un récepteur compatible DAB et vous aurez toute la journée IPFM dans votre poste à Paris, Marseille et Nice.
C'est chouette !